Il rentra chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle est descendue, là-bas dans le...
RVE, bonne matinée. Il est 10h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour. 50 000 gilets jaunes mobilisés dans la rue pour le 8e acte du mouvement hier qui a parfois viré à l'affrontement avec les forces de l'ordre. Parmi les incidents de la journée, le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux a dû être évacué de ses bureaux après une intrusion de gilets jaunes qui ont défoncé la porte avec un engin de chantier. Sur Twitter, Emmanuel Macron a condamné une extrême violence venue attaquer la République. La France insoumise répond que l'immense majorité des manifestants sont pacifiques et que les heurts sont minoritaires par rapport aux centaines de rassemblement qui se déroule dans le calme. Carlos Ghosn pourrait être libéré sous caution, mais seulement s'il signe des aveux. C'est le fils du PDG de Renault qui donne des nouvelles de son père dans le journal du dimanche ce matin. Les enquêteurs japonais veulent lui faire signer des aveux rédigés en japonais, langue que Carlos Ghosn ne parle pas. Près de 8 Français sur 10 sont favorables au rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune à l'issue du grand débat national voulu par Emmanuel Macron selon un sondage IFOP. Parmi les autres enseignements du sondage, plus de 80% souhaitent aussi la réduction du nombre de parlementaires et la prise en compte du vote blanc. Nouveau coup dur pour Nicolas Maduro. Le Parlement du Venezuela a déclaré le nouveau mandat du président illégitime. Ce mandat doit débuter jeudi prochain. Nicolas Maduro a été réélu le 20 mai dernier pour 6 ans au terme d'une élection contestée. Rugby et la série continue. Toulouse a aligné Agen hier en 14e journée de top 14, 27-20. C'est la 12e rencontre sans défaite pour les Toulousains, toutes compétitions confondues, alors que Montpellier a chuté à domicile contre Lyon 25-14. En football, la Coupe de France et ses surprises, Montpellier, Nîmes et Angers, trois pensionnaires de Ligue 1, ont été éliminés dès les 32e de finale hier par des clubs des étages inférieurs. Lyon a évité le traquenard de Bourges en se qualifiant 2-0. A noter que les Herbiers, finalistes malheureux l'an dernier contre le PSG, sont toujours en course. Bonne journée.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu.
Eh ben oui, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission ce matin, la première de l'année 2019, dans nos petits studios, avec beaucoup et énormément de monde. On va naturellement souhaiter une bonne et heureuse année à tous les auditeurs qui nous écoutent, hein, tous ceux qui sont avec nous depuis maintenant plus de 30 ans, et on va faire un petit tour de table et saluer nos invités de ce matin en leur souhaitant une bonne année. On commence avec notre vert, Bibi Moreau. Ça va, Bibi ?
Bonjour Philippe, bonjour à tous, bonne et heureuse année, hein, la santé, et puis le reste suivra.
Voilà, il est avec nous, rédacteur en chef du foot, Stéphane Dezenclos. Salut Stéphane.
Bonjour à tout le monde, et puis bonne année à tous les auditeurs.
Ouais, bon, ça va être difficile, hein, après 2018, d'avoir une belle année 2019 de foot, mais enfin bon.
Ah, pourquoi pas, on va attendre beaucoup de la Ligue des Champions, par exemple.
Allez, on va lui souhaiter aussi une bonne année, malgré les déboires de son club fétiche. C'est l'Olympique de Marseille, c'est Pierre, salut Pierre.
Salut à tous, bonne année à tous, et j'espère une meilleure année pour l'OM en 2019.
On est avec José, salut José.
Bonjour Philippe, bonjour à tous et bonne année à tous.
Il était avec nous dans la rétro, donc...
Oui, tout va bien, j'espère que le PSG va aller au bout. Mais...
On va souhaiter aussi une bonne année à notre ami Arnaud, Eurosport et donc l'Écho Républicain. Salut Arnaud,
bonjour,
ça va
Philippe, bonjour à tous, très bonne année à tout le monde.
Ouais, ouais.
Une victoire pour un club français en Ligue des Champions cette année.
Oui, et ça sera pas le la bonne nouvelle, je pense. Et puis salut à notre ami Bruno Pascoe. Salut Bruno.
Bonjour à tous, très bonne année à tous les auditeurs de RVE. Et pour 2019, moi j'espère une victoire de nos féminines en Coupe du Monde,
pourquoi pas,
qui
pourquoi
se déroulera en France.
Ça fera un doublé comme pour l'handball. Voilà. Allez, on va commenter l'actu du mois de décembre et janvier. On reviendra naturellement sur les différentes distinctions. On fera un petit bilan du championnat, également des Coupes d'Europe. Et puis on parlera du groupe de l'équipe de France. Mais on va commencer avec l'actu immédiate. C'est naturellement l'exploit fait par Viry Châtillon hier en Coupe de France. 6 divisions d'écart et pourtant Viry l'a fait. On a le président, donc Pascal Mazot, qui est avec nous. Pascal, bonjour.
Bonjour.
Alors Pascal, au lendemain de cet exploit, comment êtes-vous ?
Calme, reposé.
Oui.
Passé une nuit compliquée parce que beaucoup de choses tombent dans la tête.
Oui, bien sûr.
sûr, l'exploit hier des joueurs, notre organisation, la fatigue, tout ce qui va avec, c'est un mélange de
J'entends plus là. Est-ce qu'on entend Pascal Mazot là? J'entends plus là, Pascal.
Oui. Bon. Allô, allô.
Oui, Pascal, est-ce que vous m'entendez là? Là, je vous entends très bien. Donc, notre technicien ne va plus toucher à rien. Vous m'entendez, Pascal?
Parfaitement.
D'accord, ok. Alors, donc ça s'est passé, je l'ai dit, il y a eu beaucoup d'effervescence hier. Bon, beaucoup aussi de sollicitations, notamment journalistiques. J'ai entendu votre coach un peu partout chez nos confrères.
J'ai passé jusqu'à 10h hier soir, et puis à partir de 6h30 ce matin, plusieurs interviews. Voilà, bon, ouais, on ne s'y était pas préparé, mais on le fait avec bonheur. Hein, c'est que du plaisir, hein, il n'y a pas de contrainte. Hein, donc,
voilà, alors, est-ce que vous avez conscience que 6 divisions d'écart, vous êtes quand même rentré dans l'histoire?
Oui, on est rentré dans l'histoire. A priori, c'est d'après un de vos confrères ce matin, je ne sais plus quel, m'a dit que c'était placé en deuxième exploit de l'histoire de la Coupe de France. Après, je ne sais pas, pour nous, on a fait un match, les joueurs n'avaient pas réfléchi à ça, on a fait notre match, on est comme une ancienne équipe, on était comme en National 2 l'année dernière. Bon, nous sommes descendus sportivement, mais on a eu une deuxième couche grâce à nos amis de la DNCG. Bon, on prend ça, et on prend ça un petit peu, cette victoire, comme une revanche. Viry n'est pas mort, même si certaines personnes avaient déjà creusé le trou.
Voilà, c'est une question que j'allais vous poser. C'est une belle revanche, un beau pied de nez après votre rétrogradation administrative de la saison dernière.
Oui, tout à fait. J'espère pouvoir être invité au tirage. Pour l'instant, on n'a pas été invité. Personne ne nous a rappelé de la fédé qu'il faut faire.
Oui.
Donc j'espère qu'il y aura, quelques personnes de la DNCG que je vais croiser volontiers lundi soir. Mmh. Ce serait un petit plaisir personnel, surtout qu'en plus je suis une grande bouche. Donc
oui.
Je vais envoyer certains pics que j'ai déjà commencé. Donc ça, surtout que la rétrogradation administrative pour une somme ridiculement importante, franchement, vu le travail qu'on a fait avec tous les dirigeants depuis 10 ans pour sauver ce club, on ne méritait pas ça. On ne méritait pas ça. Pour une somme de 14 000 euros,
oui.
un arbitrage comptable entre la DNCG et notre commissaire aux comptes, c'est vulgairement, c'est dégueulasse.
Oui, effectivement. Bon, les joueurs s'étaient préparés, je suppose. Ils ont même écourté leurs vacances. Ils étaient dans le match déjà, c'est-à-dire que les réveillons n'ont pas été trop festifs notamment.
Oh non, là, non. On a juste préparé mieux. Oui, ils ne sont pas partis en vacances. Ils ont fait les efforts qu'il fallait pour faire ce match. On ne voulait pas se faire sortir comme il y a 2 ans, comme des modes propres au point de survie le 7 janvier. Beau temps, une belle pelouse, et on s'est fait sortir sans avoir joué, sans avoir combattu. À cette époque-là, on était en CFA, le point était en R1. On n'avait pas joué, donc on l'avait mauvaise. Il y a des joueurs hier qui étaient présents à ce match-là. Donc. Là, on a voulu mettre les bons ingrédients sans en faire trop. On les a pas envoyés en stage, on n'a pas fait tout ça non plus, on n'a pas les moyens. Mais on a, ils ont fait les efforts de s'entraîner pratiquement tous les jours. Ils ont fait des séances vidéo. Enfin voilà, on a fait ce qu'il fallait pour. Après, le football reste le football. On a eu les seuls reproches qu'on a eu d'Angers, c'est l'état de la pelouse.
Oui, c'est ce que j'ai entendu. Ils ont reproché que la pelouse était en très mauvais état.
Ils sont gentils. Hein. Ils ont fait venir chez nous là-bas, dans le fond de la Beauce. Ils ont des terrains meilleurs. Et quand Viry était en Ligue 2 il y a quelques années, le terrain c'était le même, adossé au lac, on a des belles installations. La mairie a mis tout en œuvre pour qu'on ait la meilleure pelouse possible. Elle était grasse. Et franchement, j'ai vu des matchs de Coupe de France bien pires, hein, où il y a eu des traquenards avec de l'eau et de la boue partout. C'était pas ça quand même. Hein.
Bon, racontez-nous un peu le match. Ça s'est passé comment? But de Sacco à la 50e minute. Bon, c'est pas le but du siècle, mais c'est pas grave ça.
Le but du siècle, non. Mais c'est jamais beau, un but. C'est beau simplement par la valeur qu'il en a. Hein. Donc, moi, j'ai vu le match, j'étais à l'entrée Bietri.
Oui.
Donc, dos au terrain, donc j'ai pas vu grand-chose. J'ai bien vu qu'en première mi-temps, on était un petit peu dominé parce qu'ils étaient du côté de la Bietri, mais bon. Et après, qu'on est fermé à Bietri, j'étais dans la rue à faire les 400 pas ou les 100 pas avec les amis de la police nationale parce que la pression était trop importante. Donc, je tournais en rond dans la rue, à parler à droite, à gauche avec des gens qui sortaient, qui rentraient. Voilà. J'ai vécu les trois dernières minutes comme un vrai supplice. C'est ce que j'ai dit à l'arbitre. 4 minutes d'arrêt de jeu et on en met 3 de plus, on sait jamais, ça fait 7. Mm-hmm. Parce que 8 d'ailleurs, d'après certaines personnes.
Ouais.
Je pense que c'est un petit peu exagéré. Ça a mis un peu de tension dans la tribune parce que ça n'en finissait pas. Je me suis permis de lui dire à la fin au cocktail. Il l'a mal pris, il rentre chez lui, il arbitrera des Ligue 1 la semaine prochaine, ça sera très bien pour lui. Ouais. Mais on ne fait pas 7 minutes d'arrêt de jeu. Surtout qu'il n'y avait rien, il n'y a rien qui justifiait cette lutte d'un jeu. J'avais quand même regardé le match calmement cette semaine pour voir si vraiment ça justifiait, mais franchement, non, ça ne justifiait pas. Alors après, c'était tendu, hein, bien sûr, le vestiaire, j'ai évité d'aller sous la douche. Donc, mais bon, c'était une vraie joie. Hein. C'était magnifique à voir. Une tribune pleine, les gamins tous heureux. Voilà, les dirigeants remerciés par cet exploit, c'est formidable.
Oui, et puis une grande partie de votre gardien aussi, hein, héroïque.
Alors apparemment, oui, il a fait une partie exceptionnelle. J'en ai voulu un petit peu, parce qu'il a tiré la couverture à soi, quand même. C'est un gamin qui était du club, qui est parti dans une autre aventure pendant quelques saisons. Il est revenu cette année. Il a fait un super match. A priori, tout le monde l'a félicité. Je pense qu'il a été bien fêté dans les vestiaires. Mmh. Mais c'est bien, ses parents étaient là, c'est bien pour lui, c'est un jeune, c'est parfait pour lui, parfait pour nous, parfait pour lui.
Et puis votre coach disait chez certains autres confrères qu'il avait changé son dispositif tactique.
Oula, alors, moi je m'occupe de la direction du club, lui il s'occupe du. On est
bien.
Super d'hommes, on travaille bien ensemble. Je lui laisse tactiquement, j'y connais rien.
Oui.
Je le laisse. Je sais que j'ai entendu dire qu'il avait mis un plan en jeu pour contrecarrer Angers. Et je me disais dans ma tête, bon, ok, mais comme il y a quand même 6 divisions d'écart, ils vont trouver la clé pour du cadenas. Hein. Et puis non, et apparemment, on a bien fait ce qu'il fallait pour les ennuyer. Ouais, mais c'est une vraie partie. Hein. Il y a eu ça a été d'un côté à l'autre, mais bon, bien sûr, c'est l'état du terrain qui gênait le plus. Le président d'Angers s'est plaint auprès du maire dans la tribune, mais il a été très correct à la fin. Il a reconnu que bon, les joueurs n'avaient pas fait ce qu'il fallait non plus pour égaliser, revenir. Voilà.
Et malgré les vacances, vous avez affiché complet, vous avez fait une belle affluence.
Oh, oui,
je sais que vous aviez des billets qui n'étaient pas encore vendus.
Oui, tout à fait. Bon, on avait vendu 250 billets avant, mais c'est une pré-vente. C'est la première fois qu'on voyait ça à Viry. C'est la première fois qu'on faisait un 32e de finale à Viry. Alors, Lyon en 2005, on l'avait fait à Bondouf.
Oui.
Le Poiré Survie, c'était chez eux. Donc là, c'est la première fois qu'on le faisait à Viry. Donc on n'avait pas forcément l'habitude de faire ce genre de réception. On a mis les gens en place pour le faire. Ça s'est bien passé. Mais la pré-vente, c'est vrai qu'entre les vacances à Paris, les gens. Bon, on avait vendu 250 billets. Nous, on avait tablé sur 1 000-1 500 personnes pour le match à 13h. Pour 17h15 dimanche, on avait tablé sur 1 500-2 000. En fin de compte, on doit être aux alentours de 1 500. Le comptage de billetterie était fait, mais voilà, avec les invités et tout ça, on va tout recaler. Je pense qu'il y avait plus de 1 500 personnes. La tribune était pleine, elle fait 1 250 personnes. Et puis les pourtours étaient bien pleins, donc on a fait une belle affluence.
Oui, parce que je crois savoir que le match a été avancé à la demande d'Angers, justement, hein, président.
Oui, tout à fait. Oui, parce qu'il jouait mardi. Donc, nous, on avait proposé 16h. Déjà, d'entrée de jeu, on avait proposé 16h le samedi. Ça ne leur convenait pas. Donc, Eurosport nous avait mis à 17h15 le dimanche. Alors, nous, ça ne nous arrangeait pas du tout. Mmh. Et après, ils ont mis 13h. Après, quand j'ai dit à vos confrères vendredi, je dis de toute manière, vaut mieux les battre à 13h samedi que de perdre dimanche à 17h15. Donc, on a pris ça comme. On prend ça comme ça, quoi. Nous, on est petits, on dit que c'est ça, on fait ça, et puis c'est tout, hein, on s'adapte, hein, on s'est adapté. On a commencé à bosser hier matin à 8h. Les gens ont bossé ça vendredi toute la journée pour le club. Ils sont remerciés par cette belle victoire.
Oui, alors une question qu'on a dû beaucoup vous poser, vous souhaitez qui maintenant?
Alors moi, j'ai deux clubs de cœur.
Oui.
J'espère qu'ils vont se qualifier. Enfin, Metz s'est qualifié hier et c'est Marseille parce que.
Metz-Marseille, d'accord.
La famille Garcia est très proche de l'Essonne et de Viry-Châtillon. Donc,
ah oui, c'est vrai, Garcia a joué à Viry. Était tout proche de Viry,
donc,
oui.
Et son père était entraîneur, a été éducateur au club. Donc ça nous ferait grand plaisir. Maintenant, on est sûr que si c'est ça, on ne pourra pas virer. Donc, je suis un peu entre les deux chaises, quoi, parce que je me dis, on se prend au jeu, on va bien peut-être essayer de prendre une National 3, passer un tour supplémentaire, et puis, ou alors une grosse Ligue 1, mais une grosse Ligue 1, on ne jouerait pas chez nous. Donc, moi, je voudrais remercier la ville de Viry, par un nouveau match à Viry. Ça ferait parler de la ville correctement, en bien. Parce qu'on mériterait de refaire un match, donc il ne faudrait pas forcément avoir une grosse Ligue 1, donc on prendra ce qu'on a. Si c'est une grosse Ligue 2, je pense qu'on aura l'autorisation de jouer chez nous, en Metz ou Lorient, des choses comme ça, on pourrait jouer chez nous. Mm-hmm. Après, si c'est une grosse Ligue 1, ou alors les exigences de la Fédé, comme ils ont des exigences de... je ne vais pas trouver le bon mot, parce que je l'ai, mais je ne vais pas vous le dire.
Oui.
Excessive, on va dire.
Oui, dites-le.
On n'a pas le droit de jouer à Viry malgré tout. Donc,
oui, parce que hier, vous pourriez jouer à Bobin sinon.
Oui, mais à Bobin, c'est 20 000, c'est ridicule. Enfin, nous, même avec nos 1500, 2000 personnes hier, ça aurait été ridicule. Là, voilà, on était chez nous, le stade a joué en Ligue 2 il y a quelques années, il était conforme. Je souhaiterais, le maire, j'ai encore eu ce matin à 7h, et on souhaiterait avoir le match chez nous et faire tous les efforts possibles pour avoir le match chez nous.
D'accord. Voilà.
Il ne s'est rien passé hier et on nous a reproché un pétard. Il y a eu un pétard sur un match d'un petit club, sur un gros club, un seul pétard. On est à Viry-Châtillon et tous les événements qui se passent dans le coin.
Oui.
Je pense qu'on a fait, en termes de sécurité, on a fait vraiment un gros, gros boulot. La police nationale, malgré tout ce qui se passe autour, ils ont quand même détaché du monde. Ça s'est parfaitement passé. Je voudrais qu'on puisse le refaire. Pour Romain, remercier les gens de tout ce qu'on a fait pour les 32e.
Oui, et bon, maintenant les jours qui vont suivre, là, il va falloir que les joueurs essaient de ne pas rester sur leur nuage. Ça va être votre rôle et puis celui d'entraîneur.
Oh oui, je pense que j'irai même pas les voir cette semaine. Je vais faire comme d'habitude.
Oui.
Moi, j'habite très loin de Viry, donc le coach, voilà, moi j'ai pleinement confiance en lui. Lui, il a pleinement confiance en moi. Voilà, on est un binôme qui marche ensemble depuis mon arrivée en 2009 au club. Il va faire ce qu'il faut, je pense qu'il est... Et hier soir déjà, il était dans le match de la semaine prochaine en championnat. Le plus dur, c'est les joueurs qui vont jouer sans essayer de se blesser pour jouer éventuellement ce match derrière. On ne sait pas si on va avoir un coup de pouce de la Ligue de Paris pour le match du 19 janvier. Est-ce qu'on pourra le repousser? Parce que jouer le 19 et rejouer le 22 ou le 23, pour des amateurs qui travaillent, des vrais amateurs qui travaillent, et ça va être compliqué. Donc on voit peut-être un aménagement, mais Walid va faire ce qu'il faut pour les faire redescendre sur terre et puis se préparer calmement. On a deux matchs de championnat, un match de coupe d'après, on verra quoi. Et on verra aussi par rapport à l'adversaire qui n'est pas d'enflammage avant de jouer le match. Quoi.
Pour finir, parce que je sais que vous êtes donc attendu en réunion, le championnat, ça reste quand même la priorité.
Ah oui, surtout que on avait notre priorité, il y a deux priorités, c'est déjà les finances du club, les mettre parfaitement à l'équilibre pour espérer monter. Donc c'est la première phase, c'est les finances. Même si on finit premier et qu'on n'a pas les finances à l'équilibre, ils ne feront pas monter, ils ne feront pas de cadeaux. Donc ils n'ont déjà pas fait les dernières. Il faut qu'on monte dans les parfaites dispositions financières. Et après, il reste 7 points à reprendre. On va faire ce qu'il faut. On a un travail, on a deux travaux. D'un côté, le sportif pour Walid. Et puis de mon côté, les finances du club à mettre à l'équilibre pour qu'on puisse passer les feuilles de la DNCG.
En tout cas, c'est un beau pied de nez, président. Hein.
Ah, je ne pouvais pas savoir.
Ouais.
Je pense que certaines personnes vont se porter pâle demain au tirage.
Mm-hmm.
J'ai quelques noms en tête comme ça, je ne vais pas les balancer, mais j'ai déjà commencé sur certains de vos confrères.
Mm-hmm.
Mais je pense que oui, ils ont dit au 32e à mon vice-président qu'ils étaient contents de s'être débarrassés de Pascal Mazot. Alors je pense que ça m'est remonté à l'oreille, bien entendu.
Oui, bien sûr, je comprends.
Je pense que ça, il y aura un retour.
Les
caméras devraient m'éviter demain soir, lundi soir.
Mmh. Très bien. Merci en tout cas. On viendra vous voir, nous, pour les 16e. Hein. On sera là et puis on continuera donc à suivre votre club. OK ?
C'est gentil.
Merci, président, en tout cas. Merci beaucoup.
Bonne journée.
Voilà pour l'interview de Pascal Mazot, messieurs. C'était l'actu donc de ce premier week-end de Coupe de France, de cette Coupe de France donc mythique, magique. C'est ça la Coupe, 6 divisions d'écart et Viry-Châtillon qui bat donc Angers 1-0.
Oui, c'est ce qui fait un peu la magie de cette Coupe de France au début, c'est que ben tous les petits peuvent se qualifier, les gros peuvent tomber avec toutes les surprises. Et je pense qu'à la fin de la journée, parce qu'il reste encore des matchs aujourd'hui, on n'est pas à l'abri d'une ou deux surprises.
Oui, c'est pareil pour Sannois-Saint-Gratien qui a battu Montpellier, Stéphane, même score 1-0. Hein. Et puis ne parlons pas de Lyon-Duchère qui écrase
Nîmes. Ouais. Effectivement, sachant que les deux équipes étaient quand même ensemble l'année dernière en Ligue 2. Effectivement, surtout que l'exploit de Sannois-Saint-Gratien, je pense qu'il est, il faut vraiment pas le rabaisser parce que. Der Zakarian était peut-être un des rares entraîneurs de Ligue 1 à avoir aligné quasiment son équipe type pour jouer ce match, quand on voit que beaucoup d'entraîneurs font tourner. Mais pour revenir sur effectivement l'exploit de Viry-Châtillon, il faut savoir que ça fait vraiment très énormément plaisir quand on est passionné de foot de voir que ça peut encore arriver aujourd'hui. Absolument. Parce que la dernière fois quand même, Philippe, je pense que tu le sais très bien, la dernière fois qu'un club un club de D1 a été sorti par une équipe qui est 6 divisions en dessous, c'était il y a plus de 30 ans.
C'était
l'équipe d'Evry d'ailleurs. J'étais au match, je crois que le match avait lieu à Versailles. Oui. Hein, Evry avait sorti Toulon en 86.
Voilà, l'école Méta qui était dans
exactement. Ouais. Et avait sorti Toulon en 86. Et depuis, il n'y a jamais eu un exploit de ce type. Alors c'est vrai qu'on pouvait se dire, finalement, ça n'arrivera plus. Ça arrivera avec les gens de National 2, qui ont des joueurs qui viennent des centres de formation, qui sont encore forts. Mais non, c'est une très très bonne nouvelle, je pense, pour le football.
Voilà, donc eh ben, on a commencé avec le président qui était revanchard. On pourra réécouter cette interview, Stéphane, sur le site quotidien Le Foot, mais vous verrez, le président, il était donc revanchard, parce qu'il faut quand même rappeler que Viry a été donc rétrogradé administrativement, et il a considéré ça, il l'a expliqué comme une injustice. Voilà.
Alors juste, j'ai pas bien entendu, parce qu'on avait un retour pas très bon ici, nous. Ouais. Quand vous lui avez demandé un adversaire, l'adversaire de son choix,
Metz ou Marseille.
Voilà. Ouais. Alors je pensais. Voilà. Je pense que le choix de Metz est quand même très très surprenant. Je m'attendais tout de suite à Paris Saint-Germain, Marseille,
Lyon. Il a de la famille en Lorraine, ouais. C'est pour ça. Et puis Marseille, parce qu'il y a des liens avec Rudy Garcia qui a joué donc à Corbeil. Et le père, il le disait dans l'interview, le père de Rudy Garcia a été éducateur à Viry-Châtillon. Donc voilà. Voilà, bon, allez, on va enchaîner maintenant donc sur le bilan du championnat. Donc on est à mi-parcours. Stéphane, la dernière fois je posais la question, Paris Saint-Germain va être invaincu pour l'instant. Mi-parcours, toujours invaincu. Donc 15 victoires, 2 nuls. Bon, il y a 2 matchs en moins quand même.
Voilà, tout à fait. Maintenant, bon, comme souvent, un peu chaque année, le Paris Saint-Germain va peut-être lâcher un match ou deux sur la fin. Ou officiellement champion, ce qui peut arriver quand même. On peut battre un record cette saison, vers là, je crois que c'est la 32e journée ou quelque chose comme ça, ils pourraient être champion. Donc là, ils vont peut-être un peu lâcher, puis si jamais ils ont la chance d'aller loin en Ligue des Champions, au moment effectivement de se préserver un peu pour les Ligues des Champions.
Allez, on envoie la pub, puisque on est dans le petit studio, donc Bastien m'a fait des signes. Il faut envoyer la pub tout de suite, donc la pub, la musique, et ensuite on prend le cours des événements. Bastien, on y va.
Brifo Électricité, entreprise familiale depuis 1981, est votre spécialiste dans les Yvelines pour tous vos travaux électriques. Création et rénovation chez les particuliers comme les professionnels. Nous vous proposons également l'installation d'interphones, de vidéosurveillance et de détecteurs incendie. Brifo Électricité motorise vos portails, vos portes de garage et assure l'installation et la gestion de votre chauffage électrique. Votre satisfaction est aussi la nôtre. Devis gratuit, dépannage rapide. Informations et réservations au 01 30 46 11 56 ou sur notre site brifo-électricité.com.
Jusqu'au 15 décembre 2018, Labassienne de Menuiserie, votre spécialiste en menuiserie reconnue au Grenelle de l'environnement, vous propose une offre spéciale Noël. 20% de remise sur une large sélection de produits. Et pour toute commande supérieure à 5000 euros, nous vous offrons un panier gourmand aux saveurs gourmandes de la Gascogne. Venez vite en magasin découvrir nos produits. Les devis sont toujours gratuits. Labassienne de Menuiserie, showroom au 27 rue de Chartres, opéré en Yvelines.
RVO 103.7 RVE.
Écoutez. vivez le sport dans votre région avec RVE.
Voilà, allez, juste un petit bilan pour les autres équipes de championnat. Donc Lille 34 points, Lyon 32 points, Montpellier Saint-Étienne 30 points, Marseille 27. Bon, il y a des matchs à rejouer, il y a des matchs en retard, donc c'est un peu difficile d'avoir des points de repère. Comment vous voyez quand même la deuxième partie de saison pour ces clubs-là? Parce que c'est la lutte pour les places d'honneur aussi. Hein.
Alors, je pense qu'il va y avoir un beau match intéressant donc, dans une semaine et demie. Il va y avoir un Saint-Étienne-Marseille et Geoffroy Guichard. Je pense que ça va être le tournant du championnat. Personnellement, je vois les Verts dans les trois premiers. Oui, tu peux me regarder avec tes grands yeux. On sera dans les trois premiers, c'est sûr. On n'aura plus rien à jouer, donc voilà. Et quand on voit le niveau de jeu des équipes actuelles, je pense que les Verts n'ont rien à envier à Marseille ou à Lille ou même à Lyon, quoi. Donc, je vois les Verts dans les trois premiers.
José, allez-y, hein. Il y a un micro, monsieur, allez-y.
Oui, bon, bah, comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises, il y a le Paris Saint-Germain et puis les autres. Oui, ça c'est fait. Mais je pense que Saint-Étienne, bon, contrairement à Bibi, troisième, je pense dans les cinq premiers, oui. Parce que je pense que Lille ne vont pas lâcher comme ça. Et Lyon non plus.
Alors Pierre,
oui, moi, pour ma part, Lille. Faut attendre le mercato en fait. Si certains joueurs partent, comme Nicolas Pépé, etc., faut voir ce qui se passe. Moi, je suis pas sûr que Lille continue sur cette cadence. Saint-Étienne, oui, dans les cinq premiers, peut-être quatrième, voire troisième. Lyon, ça va dépendre de la suite de la Ligue des Champions également. Et puis, bah, pour mon club, l'Olympique de Marseille, c'est déjà arrivé souvent qu'on fasse une première partie de saison cataclysmique et puis qu'on fasse une deuxième partie de saison exceptionnelle.
Ah, alors.
Ça, on verra avec le mercato. On parle d'arrivée de joueurs en ce moment.
Alors, on va en parler avec Stéphane pour les mercato. Que se passe-t-il à Marseille? Parce que quand on regarde Strasbourg-Marseille, hein, partout, 4-2 pour Strasbourg au tir au but, on sent une équipe qui n'est pas du tout en confiance. Hein. C'est une catastrophe.
J'ai peur qu'il y ait quand même un problème dans le vestiaire, moi, personnellement. Je ne sais pas s'ils suivent encore Garcia. Si on parlerait de problèmes un peu. Dimitri Payet serait un peu jaloux du salaire de Strootman, enfin des bisbilles entre joueurs en fait. Ça plombe
un peu le vestiaire. Mais si Balotelli vient, ça va pas s'arranger.
Bah moi, c'est ce que j'en parlais avec Stéphane hors émission. Moi, pour moi, ça c'est pas une bonne pioche en fait.
En fait, ce qui se passe, comme tu l'expliques, ce qui se passe, c'est que c'est la résultante d'un mercato aujourd'hui, malheureusement, complètement foiré, quoi. C'est-à-dire qu'on parle effectivement des problèmes de Payet et de Thauvin par rapport aux conditions contractuelles donc de Strootman, mais pas que de Strootman, aussi des autres, de Caledacar qui est arrivé et qui a aussi un très gros salaire, des joueurs qui jouent pas, qui apportent rien du tout au club, et c'est l'énorme problème. Et d'ailleurs aujourd'hui, et c'est l'interrogation aussi, je pense, moi, pour cette deuxième partie de saison, c'est voir à quel point Rudy Garcia peut avoir atteint ses limites. Parce qu'on est quand même très surpris, effectivement. Je crois que tous les observateurs, tous les journalistes avaient souligné, par exemple, au moment où Kevin Strootman signe à l'OM, tout le monde a dit, on a un peu de mal à comprendre parce que c'est le même joueur que Luis Gustavo. Aujourd'hui, essayer comme ça de faire une équipe de l'OM, moi, j'en ai pas une de mes équipes, bon, je suis pas un technicien, où je mets Gustavo et Strootman ensemble sur le terrain, quoi. Mmh. C'est forcément un des deux, par exemple, à côté de Sanson ou du petit Lopez, des choses comme ça.
C'est ça le problème, ouais. En fait, actuellement, c'est que c'est Rudy Garcia qui a choisi ses joueurs, en fait. Pour le mercato, il a ramené Strootman, il a fait un pari sur Caletacar et Radonjic. Et donc, il est clair et net que si la fin de saison s'annonce mal, je pense que Rudy Garcia fera ses valises.
Tiens, Arnaud, avant qu'il parte faire son tournoi de badminton, on l'a pas entendu. Arnaud, donc,
J'entends Pierre parler de dire que c'est Garcia qui choisit ses joueurs. Moi, je pars du principe que dans une équipe de foot, pour construire un bon effectif, c'est à l'entraîneur de choisir ses propres joueurs, d'avoir ses propres bases de jeu. Donc, si tu donnes la délégation du mercato à un mec qui n'y connaît rien, ce qui n'est pas le cas malheureusement à Marseille, ce qui est un peu paradoxal, comment on peut arriver à de tels résultats?
Justement, je confirme ce que tu dis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je dis juste que si, comme c'est Rudy Garcia qui a choisi ses joueurs, il est en première ligne, c'est lui qui va sauter en fin de saison si les résultats sont pas là. Là, l'objectif est dans les trois premiers pour Marseille. Ça, si on n'y est pas encore une fois, l'objectif n'y sera pas. Et puis en plus, la campagne désastreuse en Europa League, ça fera trop et il partira.
Alors, moi, je pense que ça fait quand même la deuxième saison où l'OM se loupe sur son recrutement. Bon, qu'on fasse une année blanche et qu'on fasse des erreurs sur un recrutement une première année, je m'explique mal comment sur une deuxième année on réédite les mêmes erreurs. Et je pense que là, au niveau de la cellule de recrutement, il y a des questions à se poser. Alors Garcia, certes, mais il n'était pas seul, c'est pas lui qui signe l'échec. Donc à partir du moment où il avance des joueurs, il y a quand même des gens qui entérinent derrière. Et là, on peut se poser des questions. Et pour en revenir au championnat, il y a une équipe qui fait pas trop de bruit et je pense qu'il commence à bien travailler. C'est l'OGC Nice. Son entraîneur commence à prendre ses marques et je pense que en fin de saison, on devrait retrouver Nice.
Patrick Vieira.
Patrick Vieira. On devrait retrouver Nice certainement bien classé.
Ce que je voudrais rajouter, c'est qu'effectivement, par rapport, je suis 200% d'accord avec Bibi. Si on parle d'équipes qui sont capables de jouer dans les 5 premiers ou peut-être plus pour, par exemple, pour l'Olympique de Marseille, je pense que on va avoir une réponse le 16 janvier. Je crains fortement un match nul entre les deux équipes, mais je pense que s'il y a un gagnant entre Saint-Étienne et Marseille, il y en a une qui va s'ouvrir une fin de saison une deuxième partie de saison très intéressante, et l'autre par contre qui va avoir beaucoup de mal à rester au contact même des cinq premiers, que ce soit pour l'une ou l'autre des deux équipes. Et je pense qu'on n'attendra peut-être pas la fin de la saison, en cas de défaite par exemple de Marseille, on n'attendra peut-être pas la fin de la saison pour se séparer de Rudy Garcia à l'OM.
Bon Stéphane, j'aimerais qu'on parle un peu des mercato, parce qu'on parle de tout, donc on parle aussi de Fabregas sur Monaco, Rabiot à Barcelone notamment, on parlait donc de Balotelli sur Marseille, ça va se faire ça? Il y a des bonnes infos?
Je m'étais déjà beaucoup mouillé sur le Ballon d'Or. Hein, rappelle-toi,
oui, on va reparler aussi de ça.
D'ailleurs, j'ai quelques infos, pas plus, je pense que beaucoup. Si ce n'est que oui, Fabregas, je pense que c'est dans la semaine, ça se fait. Il faut savoir que Chelsea a joué un match de Cup ce week-end, hier, qu'il était capitaine, qu'il avait le brassard, qu'il est sorti juste avant la fin du match, qu'à la fin du match il est revenu au milieu, il a dit adieu, en gros il a fait ses adieux à Chelsea, donc il part. Donc effectivement il y a toujours la possibilité qu'au dernier moment un club intéressé par un tel joueur effectivement et surenchéri pour le faire venir, ça va se faire. Maintenant il y a effectivement ce cas Balotelli, on parlait à la fois de Nice. D'ailleurs, je pense que le départ de Balotelli va faire beaucoup de bien à Patrick Vieira et au vestiaire de l'OGC Nice.
C'est un très bon reportage chez les amis de Canal.
Ouais. Hein, c'est très très rare. Ouais. C'est franchement très rare de voir ce type d'image. Et donc Balotelli, effectivement, est en discussion avec Marseille. Mais il faut savoir justement aussi qu'il y a apparemment un petit conflit actuellement en interne à Marseille entre Jacques-Henri Hérault et Rudy Garcia. Voilà, exactement. Jacques-Henri Hérault, et on peut le comprendre, j'aurais peut-être un peu la même attitude si j'étais président. Il aimerait que Balotelli vienne. Moi, je pense que un des points forts, un des intérêts du transfert de Balotelli peut être justement de réveiller cet OM. On parlait de ce qui se passe par rapport à la saison dernière. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont endormis. On a l'impression qu'ils sont quasiment anesthésiés. Je sais pas, c'est quand même très, très, très étrange. Donc, peut-être qu'un joueur comme ça peut réveiller en donnant un peu un coup de pied dans le vestiaire, dans tout ça. Donc, ça peut réveiller tout le monde. Sinon, pas beaucoup d'infos, si ce n'est que tous les voyants sont quand même au vert pour qu'on ait, je pense, un mercato, un mois de janvier très, très riche, très actif en Ligue 1 et dans les grands championnats européens.
D'accord. Ok, on en reparlera. On aura encore l'occasion d'en reparler en février. Le temps presse. Je voudrais qu'on revienne sur les Coupes d'Europe parce que la saison n'est pas très bien commencée. Et puis finalement, ça s'est beaucoup mieux terminé pour nos clubs français. Donc le Paris Saint-Germain qui a fait ce match remarquable. Il n'y a rien à dire. Match parfait contre l'Étoile Rouge de Belgrade. 4-1. Le PSG qui termine premier de sa poule devant Liverpool et Naples. Paris Saint-Germain qui va jouer Manchester. Ils ont bien dressé la situation, Arnaud.
Ils montent en puissance. Oui, oui. Simplement.
Oui, oui. Ça a été
assez compliqué au début. Il y a eu un match référence contre Liverpool et un match qu'on pourrait qualifier d'exceptionnel à Belgrade parce qu'ils ont maîtrisé leur sujet de la première à la dernière seconde. Le PSG monte en puissance. Il y a un trou au milieu de terrain avec le départ de Rabiot qui va être acté. Verratti va falloir faire très attention à Ultrafort de ne pas prendre un jaune, donc ça risque de se retrouver sans milieu de terrain au match retour contre United. Le PSG est en train de monter en puissance et je pense sincèrement qu'ils peuvent faire une belle performance en Ligue des Champions cette année.
Le problème peut-être pour Paris c'est que Mourinho est parti de Manchester et du coup que Ole Gunnar Solskjaer qui a repris Manchester.
Pour l'instant ça marche très bien pour Manchester.
Et il est sur 5 victoires de suite. Et donc Paul Pogba est, est bien réveillé.
Est-ce que, et puis surtout, est-ce que, je sais pas, autour de la table, est-ce que vous avez vu les matchs en question de Manchester? D'accord, ok. Donc c'est vraiment parce que tu es supporter à Marseillais. Parce que là, là, il y avait d'ailleurs un très bel.
Non, article. Parce qu'il y a le Boxing Day surtout.
Il y avait un très bel article. Non, mais je dis ça pour penser que ça inquiète le Paris Saint-Germain. Parce qu'il y avait un très bel article chez un de nos confrères, je crois que c'était de l'équipe là, hier ou avant-hier. C'est qu'effectivement, ça va mieux pour Manchester, mais ça va moins bien pour Manchester. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu regardes l'équipe, effectivement, ils ont joué que des équipes classées au-delà de la 12e place, je crois. Donc ils ont gagné. Mais derrière, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Leur défense, la défense de Manchester, c'est même quand ils ont gagné contre les derniers ou l'avant-dernier, je veux dire, ils concèdent ou ils prennent un but ou ils concèdent des occasions, un truc de dingue, quoi. Et ils disent que c'est aussi le système mis en place par Josh Kerr qui fait que effectivement les joueurs ont plus de liberté. Pogba, par exemple, le gros problème entre Pogba et Mourinho, c'était que Mourinho reprochait à Pogba de pas défendre. De pas assez défendre. Effectivement, Pogba défend moins, Pogba marque des buts, Pogba est décisif. Mais maintenant, derrière, l'équipe de Manchester, elle est en grand danger. On va attendre rendez-vous à tout le monde le jeudi 13 janvier à Wembley, Tottenham, Manchester United. Et là, on saura effectivement quel est le niveau de Manchester.
Et c'est tout à fait vrai. Et pour revenir sur Paris, tu parles de l'entraîneur de Manchester, on va parler de l'entraîneur du PSG. Cette année, le PSG a un truc qu'il n'avait pas les années d'avant. Il y a eu Blanc, il y a eu Emery, et le PSG a un entraîneur exceptionnel aujourd'hui. Thomas Tuchel, je suis désolé, tactiquement, fait des prouesses avec...
Pour l'instant, les événements lui donnent raison, hein, c'est vrai. Hein. Ouais, ouais.
Et on parlait du recrutement tout à l'heure.
Ouais, ouais, ouais.
Recrutement 100% Garcia à Marseille, recrutement 100% Tuchel à Paris, et recrutement 100% réussi.
Bien joué Marquinhos 106, il était perdu au début, maintenant on s'aperçoit que c'est...
C'est vrai qu'il a l'air de mieux tenir son vestiaire par rapport à Unai Emery, et... C'est vrai que c'est un entraîneur qui a quand même une certaine expérience. Il a entraîné quand même Dortmund. Il avait fait du bon travail là-bas. Et je crois qu'il est en train de poursuivre à Paris. Pour l'instant, comme je le dis, il tient bien le vestiaire. Et tant que le vestiaire est bien tenu et que sa tactique marche, il peut aller très loin. Et je pense que contre Manchester, ça va être du 50-50, peut-être du 60-40 pour Paris.
Et puis je pense aussi que l'attitude de Neymar au dernier match, s'il poursuit sur cette ligne,
c'est peut-être
ça
un
sera
tout,
que tout bénéfice pour le PSG, puisque on a vu que Neymar avait pris conscience que de se rouler par terre, ça faisait pas avancer le schmilblick, et que là, il tenait debout, et c'est comme ça
peut-être
qu'on
a que l'entraîneur a effectivement un certain aura, quand même sans Neymar.
Peut-être que Neymar grandit dans sa tête aussi, hein, peut-être que c'est plus l'enfant gâté, et qu'il a compris qu'il fallait jouer au football et pas faire des simagrées sur le terrain.
Bon, Lyon l'a fait quand même, 2-2 contre Donetsk, qui termine deuxième donc, de leur groupe derrière Manchester City. Mais bon, ils vont jouer le Barça. Si l'aventure s'arrête pour Lyon, c'est pas grave, le contrat, il est rempli, messieurs.
Bah, je pense que tout club rêve de jouer contre le Barça et de se mesurer au Barça. Donc effectivement, si Lyon est éliminé, bah écoutez, ça sera pour eux quand même une saison, on va dire... pleinement réussi.
5 matchs nuls quand même. Hein,
dans oui, mais ça, c'est du grand Lyon. Ça,
Cinq matchs nuls.
Un coup bien, un coup moins bien. Moi qui suis stéphanois, effectivement, j'apprécie pas forcément l'équipe de Lyon. Mais je dois reconnaître qu'ils sont capables de belles choses, mais ils sont aussi capables de passer à côté de la plaque. Quoi.
Mais surtout que Lyon n'est jamais aussi fort que quand il affronte un très grand club. C'est compliqué contre les clubs moyens. Lyon, en Coupe d'Europe, l'histoire le prouve, contre les gros clubs, c'est toujours. Je vais pas dire plus simple parce que ça serait pas le mot adapté, mais c'est toujours plus abordable que contre un club moyen. Donc quoi qu'il arrive, Lyon avant d'aborder le tirage au sort ne pouvait pas avoir un tirage au sort abordable en se disant on va aller jouer le match en étant favori. Ils ont eu le pire qui soit, c'est le Barça, et après tout ils ont plus rien à perdre. De toute façon, il y a quelque chose à jouer. Et voilà.
Même si ça s'arrête pour eux, le contrat est rempli, quoi.
C'est vrai que là ils sont tombés sur un os, mais bon sur un match tout est possible. Mais bon quand même le Barça est quand même un cran au-dessus.
Est-ce que Genesio a le numéro de portable, peut-être lui filer, de l'entraîneur de Viry-Châtillon?
Pourquoi? Oui, peut-être.
Mais moi, je trouve que pour Lyon, c'est dangereux, parce que imaginons que Lyon se fasse ridiculiser contre le Barça, ce qui est possible aussi.
Rempli, ils sont pas favoris.
Oui, mais après, ça peut être difficile pour la fin de saison. S'ils sont sur la course au podium, ils auront peut-être lâché un peu d'influx dans ces deux confrontations mentales. S'ils se prennent un 6-0 au Camp Nou, ce qui peut arriver. Ça arrive à Arsenal, ça arrive au Bayern. Donc, dans la tête
au PSG.
Voilà, cette, oui, oui. Moi je pense que ça peut jouer dans la course au podium pour Lyon. Et oui, peut-être en faveur de Marseille.
Monsieur Hollas à le 06 de Messi, il va y envoyer un petit tweet et tu vois, ça va bien se passer. Ah,
excusez-moi, en parlant de Lyon, je tiens quand même qu'à préciser que la semaine prochaine, il y a un Saint-Étienne-Marseille, et la semaine d'après, il y a un Saint-Étienne-Lyon. D'accord ? Donc je pense que ça va jouer dans la saison, on va tous vous démoraliser.
Exactement, ce qui fait que dans deux journées, les Verts peuvent se retrouver effectivement à portée du podium, mais ils peuvent aussi se retrouver dixième.
Tout va dépendre des matchs.
Concernant Paris, je ne veux pas jouer le vilain petit canard, hein, parce que j'espère qu'ils vont aller loin quand même. Paris en championnat de France, ils dominent, mais enfin, quand on regarde le jeu jusqu'à présent des équipes dans le championnat, c'est vrai que c'est pauvre. Donc, je veux dire, tu parlais de Blanc tout à l'heure, Paris a toujours eu des grands entraîneurs, hein. Alors là, ils ont peut-être quelque chose en plus au niveau mental et tout. Neymar s'est remis un peu dans le rang. Mais il faut quand même pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, quoi.
Voilà, donc on ne parlera pas de Monaco, hein, qui a été pitoyable, qui a perdu encore son dernier match contre Dortmund 2-0. Il n'a gagné aucun match. C'est un peu un parcours similaire à l'OM en Europa League. Hein, c'est non, pareil. Hein.
Je peux pas laisser dire ça. Dans le groupe de l'époque, il y avait Naples, Dortmund et Arsenal.
Oui, c'est pas le même groupe non plus. Oui, d'accord, mais enfin bon.
Il compare avec l'Europa League.
Oui, de l'Europa League, je te parle de cette saison.
Tu parlais de l'année où on a fait 0 points en Ligue des Champions.
Non, je parle de cette année. C'est un parcours qui est similaire, aucune victoire que des défaites.
Je dirais que le parcours de Marseille est encore plus pitoyable parce que prendre 3 chez soi contre Limassol, ça fait peur.
Ouais, donc même combat, hein, Marseille et Monaco cette année en Coupe d'Europe, même combat. Bordeaux a failli le faire, ils ont battu quand même Prague 2-0, mais ça a été insuffisant.
Ils se sont réveillés trop tard.
Ils se sont réveillés trop tard,
malheureusement, ils ont pris peut-être conscience.
Ils ont gagné à Copenhague, pardon.
Ils ont gagné à Copenhague, ils ont battu Slavia Prague et ils ont 3 victoires, je crois.
Ils ont perdu chez eux contre le FC Copenhague, c'est ce qui leur fait défaut.
Bon, Rennes l'a fait. Par contre, Rennes va jouer le Bétis de Séville. Rennes, donc, qui a battu Astana 2-0. Les Rennais, qui n'avaient pas très bien commencé, terminent deuxième de leur poule derrière Kiev. Et finalement, donc, Rennes jouera Bétis de Séville. Bon,
avec un truc quand même incroyable, effectivement, qui se passe. C'est ce changement d'entraîneur. Je pense que ça n'arrive pas souvent dans l'histoire de la Ligue 1, changement d'entraîneur, un type complètement inconnu, si ce n'est d'être le fils de l'adjoint Didier Deschamps arrive. 5 matchs, 5 victoires, un but encaissé, je crois, sur les 5 matchs, toutes compétitions confondues. Voilà. Incroyable.
Voilà, on va saluer le départ d'Arnaud, comme quoi les journalistes sportifs, ils montrent aussi l'exemple. Hein. Arnaud, il part faire un tournoi de badminton, donc c'est bien Arnaud.
Non, c'est plus l'entraînement qu'un tournoi, mais voilà.
Ah bon, d'accord, bien.
Pour être journaliste, il paraît qu'il faut pratiquer pour savoir de quoi on parle.
Ah, c'est vrai, c'est bien. Alors, bonne chance, Arnaud.
Tu seras journaliste de badminton ?
Ah, bientôt, bah, peu importe, pour les Jeux Olympiques, après tout. Hein ? Voilà.
Non, mais pour revenir sur Rennes, moi, je voudrais dire un mot, c'est que. Enfin, Rennes réussit à se qualifier en Coupe d'Europe.
Oui.
C'est un club maudit, on est en Ligue 1.
Et
ils ont quand même une belle équipe avec des bons joueurs comme Ismaïl Assar, qui est pour moi, il va pas rester longtemps en France.
C'était pas très bien parti au départ. Je me rappelle de cette défaite qu'ils avaient eu à Kiev, contre Kiev à domicile, hein, de Buzyn. Et puis bon, ils ont bien dressé la situation. Bon, c'est le seul club qui sauve l'honneur en Europa League, 1 sur 3. Ça fait 3 sur 6 pour l'ensemble des clubs français en Coupe d'Europe. C'est moyen, mais au départ, c'était pas très bien parti.
On avait eu peur. Si Lyon et Rennes n'étaient pas passés, ça aurait été plutôt une catastrophe. Oui.
Mm-hmm. Très bien. Bon, ça correspond quand même au niveau d'ensemble du foot France actuellement.
Oui.
3 sur 6, bon.
3 sur 6, on sait très bien que les clubs français en Europa League, il suffit qu'ils perdent 2 matchs, ils lâchent l'Europa League. Donc c'est ce qui est arrivé à Marseille et à Bordeaux. Après il y a eu des concours de circonstances comme Bordeaux qui n'a pas réussi à se qualifier, mais Rennes, ils avaient quand même un groupe prenable et ils ont réussi à se qualifier. Après le Betis Séville, c'est quand même un gros morceau. Cette année ils sont bons en Espagne, hein. Ça va être compliqué.
Ce qui peut être inexplicable, pour revenir sur Monaco, c'est que en 2 saisons, comment c'est incompréhensible. La chute de Monaco passée de la première.
Ouais, on l'a déjà dit, on l'a répété, ils ont perdu tous leurs joueurs, tous leurs effectifs.
On comprend pas la politique de Monaco actuellement. C'est dommage, parce que c'était quand même.
Bon, si Fabregas vient, Stéphane, ça va peut-être remonter un peu.
Je sais pas si c'est Fabregas qui va remonter et qui va éviter la relégation.
Non, mais au moins, sauver la relégation. Moi, je pense que Monaco va. Franchement, je devrais parier ici. J'avais pris un premier entre guillemets pari en disant que Guingamp, ça fait longtemps, hein, filer directement vers la Ligue 2. Mais je pense sincèrement que Monaco va même peut-être pas fausser, mais en tout cas va perturber complètement les pronostics des matchs retour, parce que je pense que oui, ça va s'asser. Ils ont récupéré notamment, effectivement, Aldo, je sais pas trop ce que ça vaut, mais effectivement ça peut difficilement être pire que ce qu'on a vu de Jemerson et Glick sur la première partie de saison. Mais ils ont aussi récupéré, sur très très important, Ronnie Lopez, je pense qu'il est dans le groupe pour jouer aujourd'hui en Coupe de France. Donc si Fabregas arrive, et puis je pense que c'est pas le dernier qui va arriver d'ici le mois de janvier. Hein.
C'est pas anodin, c'est Thierry Henry qui récupère des joueurs d'expérience. Oui, il connaît Fabregas, Naldo, il a 36 ans.
Avec son réseau,
donc il y a beaucoup de jeunes à Monaco, ils ont besoin d'être entourés.
On peut quand même avoir un milieu de terrain, Fabregas, Golovin, Tielemans, plus je sais pas qui il y a d'autres, Benacer, par exemple, Aïd Benacer, ça a quand même de la gueule, quoi.
Ouais, ou Aoulou,
par exemple. Et s'il y a devant Falcao et un Germain, par exemple, qui rêvent de retourner à Monaco, ça donne quand même une sacrée équipe, quoi.
Très bien. Bah, écoutez, merci pour les Coupes d'Europe. Juste un petit mot, les tirages au sort de l'équipe de France, là. On en parlait, c'était l'Euro. Bon, groupe très facile, l'équipe de France devrait y arriver. La Turquie, la Moldavie, Andorre, Albanie et puis Islande.
Oui, à part
la Turquie,
la Turquie, aller jouer en Turquie, c'est toujours un peu compliqué, mais normalement, la Turquie, ça fait quand même quelques années qu'ils n'ont pas une équipe qui fait peur, avec des joueurs d'exception. Puis l'Islande aussi, bah on les a souvent croisés. Et puis là, ils vont se battre, etc. Mais normalement, c'est une formalité.
Et puis on l'a vu avec quand même l'équipe de le PSG face à Belgrade. Les phrases, je pense que les phrases, c'est toujours un peu compliqué d'aller jouer en Turquie ou d'aller jouer machin.
Oui,
je pense que ça, c'était pour le football d'hier. Aujourd'hui, c'est tellement encadré et tout que je pense qu'il n'y a pas de... Si, à valeur égale, je suis d'accord avec toi, à valeur égale, t'as une Turquie qui est quatrième.
Je te parle pas du côté spectateur, ambiance dans le stade. Moi, je te parle que les Turcs, ils vont jouer les champions du monde, ils vont être galvanisés, et puis ça va être comme un match de Coupe de France.
Mais je pense qu'il y a trop de différence, Moldavie-France, par exemple.
Oui, mais bon, je vous rappelle quand même que la France a fait match nul contre le Luxembourg il n'y a pas si longtemps que ça, d'être champion du monde. Ils peuvent aussi ronronner.
Oui, non, mais puis on a vu, encore une fois, Viry Châtillon, tout peut arriver dans le football.
Juste un petit mot, le film de notre ami Frédéric Calon, je l'assure TF1, complément, vous l'avez trouvé comment? Sympa? Ça a bien complété le ce qu'on avait vu au mois de juillet.
Ouais, je pense que c'était un film qui était quand même relativement sympa à voir.
Ça nous rappelait
des bons souvenirs. On a eu des petites informations sur les coulisses, l'extincteur de Rami.
Et c'est là qu'on voit que Deschamps est très psychologue. Hein. S'il intervient, ça peut tuer le groupe.
Ah bah on peut partir en vrille et ça peut être un peu. Non, mais je pense que c'était un film un peu comme le bleu dans le.
Qu'on avait vu après le.
Non, mais c'était sympathique. Ça nous a rappelé de bons souvenirs.
Ce qui est sûr, c'est que plus le temps passe et plus on se rend compte quand même qu'on aime ou on n'aime pas Didier Deschamps. Ouais. Mais que le vrai plus quand même de cette équipe de France, ça a été Didier Deschamps. Je sais pas si vous avez vu, il y a une grande interview qui doit sortir cette semaine sur l'équipe, la chaîne L'Équipe, de Deschamps par Domenech, dans laquelle Deschamps explique que avant chaque match, avant les huitièmes, à partir des huitièmes de finale, il réunissait non pas les 23 joueurs, mais il faisait des causeries particulières avec uniquement les 11 titulaires. Donc il reconnaît lui-même. Il dit c'est pas pédagogique, c'est peu orthodoxe. Je pense que tous les grands entraîneurs crieraient au loup en disant ça, on peut pas faire ça, on peut pas mettre les joueurs de côté et tout. Lui il l'a fait et il dit c'était très important au niveau tactique. On parlait prendre les joueurs tout. C'est des petites différences, hein. C'est des petites différences peut-être, mais bon, Deschamps a fait la différence.
Puis, moi, ce qui m'a plu, c'est quand Pogba a dit aux autres joueurs un moment, parce qu'ils étaient une petite poignée, il dit on sait ce que c'est que d'avoir perdu une finale. Maintenant, ils peuvent se dire on sait ce que c'est que d'avoir gagné.
Eh oui.
Voilà. Et ça va tout faire pour cette équipe, en laquelle je crois à 1000%.
Allez, la pub et la musique.
Vous voulez vendre, acheter un bien sur Aufargis, Le Perret ou Vieille Église? Appelez Pierre Burtel, votre agent conseil en immobilier, au 06 43 27 13 08 et bénéficiez des honoraires réduits de l'agence ImmoJust. Pierre Burtel au 06 43 27 13 08.
Il n'y avait plus cette petite flamme entre nous. Je le trouvais vieilli, terne, ennuyeux. Bref, je pouvais plus le voir. Alors je l'ai remplacé. Et celui-là, il a vraiment tout ce qu'il faut. Brillant, classe. Je ne me lasse pas de le regarder.
Plafond fissuré, vieilli, peinture écaillée. Avec Creative Design, le spécialiste du plafond tendu, changez pour un plafond séduisant. Mat, brillant ou satiné, Creative Design pose votre nouveau plafond dans la journée. Sans poussière et sans odeur.
Une œuvre d'art.
Rendez-vous sur creativedesign.fr 01 58 88 21 20.
DMP Doc des Matériaux du Perret, votre spécialiste des matériaux de construction à votre service depuis 1996. Professionnel et particulier, DMP est distributeur et storiste des grandes marques pour tous vos matériaux, le bois au détail, le métal et l'outillage. DMP, c'est le conseil, la disponibilité et la livraison toute quantité. DMP Doc des Matériaux du Perret, 10 rue Roseau au Perret en Yvelines. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à midi et de 13h30 à 18h, ainsi que le samedi de 8h à midi. DMP Doc des Matériaux du Perret, 01 30 46 30 97.
Et maintenant, retour des hits sur RVE.
Pour bien compléter un peu notre rétro d'il y a 15 jours, par les distinctions, on parlait du Ballon d'Or France Football, confirmé, donc c'est Modric, le Croate, qui l'a emporté devant Ronaldo et Griezmann, 3e. Mbappé, 4e, mais gagne quand même le Ballon d'Or des moins de 21 ans. Et puis Varane n'est que 7e. Bon, mais quand on voit, par exemple, le sportif des sportifs monde, de notre ami, de nos amis du journal L'Équipe, eh bien, on s'aperçoit que c'est Hirscher, le skieur autrichien, qui est donc numéro 1 avec 435 points devant Djokovic, deuxième 390, troisième Hamilton 386, Quatrième, Kevin Mayer, 379 points. Et Mbappé n'est que cinquième avec 376 points. Et les sportifs France, aussi de nos amis d'équipe, eh bien, c'est Kevin Mayer avec 686 points devant Mbappé. 645, Martin Fourcade, donc 3e, 643, triple champion olympique de biathlon, 4e, Raphaël Varane, 468 points, et 5e, Griezmann, 380 points. Donc c'est quand même assez étonnant quand même que en cette année où quand même le foot a écrasé tout le reste, même si on était aussi en année olympique, même s'il y a un record du monde du décathlon, que finalement les footballeurs français n'aient pas été autant récompensés que cela, sauf peut-être France Football qui a quand même désigné Mbappé comme meilleur joueur. C'est assez surprenant, c'est-à-dire que c'est plus le collectif qu'on a
revu. Oui, voilà, c'est ça, ça dénote peut-être un...
Encore plus qu'en 98, dénote, Zidane avait tout raflé quand même. Hein.
Oui, moi.
Ballon d'or, sportif monde et sportif France.
Je sais pas, ça dénote l'année. Peut-être que... Ils auraient peut-être... Deschamps aurait été sélectionné, peut-être que Deschamps aurait été premier. Mais je sais pas, ça dénote peut-être que, justement, c'est le groupe qui a gagné et pas un joueur individuellement.
Oui. C'est bizarre, un petit commentaire, non ?
Tout à fait. Tous les premiers là, que tu as cités, c'est quand même tous des sportifs, oui, des athlètes qui excellent dans un sport individuel.
Alors, on va quand même citer le ballon d'or France Football. Hein, c'est Alda Egerberg, première féminine norvégienne à être ballon d'or. Et puis, pour être très complet, hein, on va citer chez les femmes Simone Biles, donc la championne de gymnastique sportif monde, et Agnès Banou, la judoka, donc qui est sportive France de l'année. Voilà, bah merci de nous avoir d'avoir été nos premiers invités pour 2019 dans un studio un peu réduit. On a fait avec, hein, mais bon, c'est comme ça. Puis on est surtout ravis d'avoir parlé de l'exploit de Viry Châtillon, parce que le football, c'est bien ça quand même, hein, six divisions d'écart et une équipe de Viry donc qui arrive à battre l'équipe d'Angers. Voilà, émission que vous pourrez naturellement réécouter en podcast, hein, dans le courant de la journée. Et puis la semaine prochaine, ça sera le grand retour de Tribune Sport. N'oubliez pas le marathon des Yvelines qui a commencé sur Cernay-la-Ville aujourd'hui à 8h45. Bon dimanche à toutes et à tous. Merci à Bastien d'avoir été aux manettes, et ça n'a pas été facile ce matin. Salut.
Chaque dimanche, 10h11 sur RVE. RVE, bonne matinée. Il est 11h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour. 50 000 gilets jaunes mobilisés dans la rue pour le 8e acte du mouvement hier, qui a parfois viré à l'affrontement avec les forces de l'ordre. Parmi les incidents de la journée, le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, a dû être évacué de ses bureaux après une intrusion de gilets jaunes qui ont défoncé la porte avec un engin de chantier. Sur Twitter, Emmanuel Macron a condamné une extrême violence venue attaquer la République. La France insoumise répond que l'immense majorité des manifestants sont pacifiques et que les heurts sont minoritaires par rapport aux centaines de rassemblement qui se déroule dans le calme. Carlos Ghosn pourrait être libéré sous caution.